Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara. Le podcast de la durabilité.
Le 15 février 2024, une étape significative a été franchie par le Sénégal et le système des Nations Unies avec la signature du nouveau cadre de coopération pour le développement durable 2024-2028, marquant un engagement renouvelé vers l'atteinte des objectifs de développement durable et l'amélioration du bien-être de la population sénégalaise. Le budget 2024 du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, soumis au vote des députés ce lundi, et donc, bien sûr, pour parler du 15 février 2024, est passé à 48 699 848 381 milliards de francs CFA contre 7 milliards de francs CFA en 2023, soit donc une hausse de 26%. Les différents crédits sont répartis entre plusieurs programmes, dont la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres. La conservation de la biodiversité et la gestion des aires protégées indiquent le rapport de la commission relatif à l'examen du projet du budget 2024, toujours du ministère de l'Environnement sénégalais. La Banque mondiale, elle, estime que d'ici la fin du XXIe siècle, l'élévation du niveau de la mer pourrait entraîner la disparition de 55 à 86 km² de plages du Sénégal et inonder 6000 km² des zones de basse altitude. De plus, d'ici 2080, 75% du littoral pourrait devenir hautement vulnérable à l'érosion en raison, bien sûr, de l'élévation du niveau de la mer qui a déjà été considérablement au cours des dernières décennies très néfaste pour le pays. Pour évoquer aujourd'hui avec vous, mesdames et messieurs, cette problématique de la gestion de l'environnement au pays de la Teranga, nous sommes avec Abdou Touré, communément appelé Tonton Vert. Il est l'initiateur de Quartier Vert Challenge, par ailleurs diplômé en fabrication mécanique et manager en hygiène, sécurité et environnement. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation.
Bonjour Monsieur Tonkara, merci pour l'invitation.
Alors, Tonton Vert, si on peut vous appeler comme ça, bien sûr.
Oui, pas de souci.
Alors, Tonton Vert, où en est-on de votre point de vue sur la politique du développement durable au Sénégal?
Alors, c'est une question très intéressante. Au niveau du Sénégal, les politiques sur les questions développement durable sont, en cours de route. Pas beaucoup de visibilité dessus, mais d'après ce qu'on voit, ce qu'on observe sur le terrain et dans les politiques de l'État, le Sénégal est bien en place dans cela. Si on peut, je ne sais pas si vous le savez, dans le PSE, mm-hmm. Le plan Sénégal émergent, il y a une bonne partie qui est consacrée à cela et c'est ce qu'on appelle le PSE vert qui englobe tous les projets de développement durable au Sénégal. Donc, les questions de développement durable, les questions de transition énergétique, transition écologique, le tourisme, les projets de reboisement, l'agroécologie, les projets liés aux questions d'exploitation de terres agricoles ou bien des formations sur la gestion environnementale, les questions climatiques. Il y a énormément de projets dedans. Maintenant, le problème, c'est que tout cela, c'est bien beau, mais sur le terrain, mm-hmm. parfois, on note une disparité. Il y a des gaps énormes parce qu'on constate que le Sénégal aujourd'hui, si vous êtes à Dakar, vous observez pratiquement, on ne peut pas rester 15 jours sans avoir des forts pics de pollution dus à la poussière qui arrive. Dakar, ces derniers mois, est très affecté par ce phénomène mm-hmm. et la qualité de l'air est très mauvaise. Donc, c'est énormément de soucis. Et vous le constatez aussi au Sénégal, dans beaucoup d'endroits, c'est très déboisé. Les programmes de reboisement de la Grande Muraille Verte ne bougent pas beaucoup. C'est ce qui pousse aujourd'hui des initiatives comme Quartier Vert Challenge à vouloir se positionner pour pouvoir apporter des solutions et à travailler sur des projets de ville verte.
Justement, avec aujourd'hui le phénomène du stress hydrique, la pollution atmosphérique, comme vous venez de le souligner également, le Sénégal est-il au rendez-vous de ce phénomène qui menace donc notre environnement, notamment l'Afrique?
Oui, le Sénégal est au rendez-vous. On se bat, on essaye de faire ce qu'on peut, mais pour moi, observateur, les choses sont encore très timides. Et aujourd'hui, avec un nouveau régime qui est en place, qui arrive, c'est demain la prestation de serment du nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Nous espérons, parce que nous avons pu consulter les programmes des différentes parties et le programme du parti PASTEF, nous pensons et nous espérons que les choses vont s'améliorer, les choses vont changer, qu'il y aura beaucoup plus de prise en compte de ces choses qui sont liées à la qualité de l'air, à la pollution atmosphérique, à la pollution des mers, des eaux et des terres. Parce que c'est quelque chose qui est là, qu'on sent, mais on ne voit pas vraiment de solution d'avancement et de progrès dans ces aspects-là.
Tantôt vert, vous voulez, bien évidemment, qui voulez que tout soit vert, entre guillemets, au Sénégal, vous intervenez très souvent dans le cadre de vie, dans la protection de l'écosystème. Cette sensibilisation porte-t-elle ses fruits et y a-t-il une politique d'accompagnement du gouvernement concernant des personnes comme vous, mais également des gens qui œuvrent dans ce domaine?
Je m'active dans ce secteur, mais pour vous dire vrai, je n'ai jamais eu un accompagnement ou bien accompagnement de mon organisation par rapport à ce genre d'activité. Maintenant, il faut se féliciter maintenant de cet engouement qui a enveloppé ces derniers jours le Sénégal après l'élection du nouveau président. Les jeunes Sénégalais se sont sentis concernés, et ont décidé de nettoyer, de rendre le Sénégal propre. Donc, il y a des séances de nettoyage, de clean-up dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les quartiers de Dakar et dans les grandes villes. Et je dis Alhamdoulilah, je suis très satisfait de voir que les jeunes s'impliquent, qu'ils aiment cette chose. Mais moi, personnellement, avec notre organisation et avec d'autres personnes, nous sommes en train de voir aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement qui va s'installer, comment accompagner ces actions, que ça soit vraiment institutionnalisé au niveau national et que ça puisse être accompagné par des textes, des lois et des mesures très efficaces avec l'État du Sénégal.
Aujourd'hui, des pays africains, à l'instar du Maroc, paraît en avance sur une prise de conscience de la protection de l'environnement. Au même moment, le Sénégal pourrait perdre jusqu'à 8% de son PIB d'ici 2030 en raison des effets des changements climatiques, ce qui toucherait en priorité les revenus des personnes les plus pauvres. Quel est le problème, selon vous, par rapport également à ce retard du Sénégal?
Pour moi, c'est qu'on est un pays qui aime bien faire dans la politique, dans l'écriture. Des jolis discours et non sur les aspects pratiques. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous connaissez la décharge de Mbeubeuss?
Tout à fait.
À Kermassa, qui n'est pas loin du lac Rose. Vous avez entendu récemment que le lac Rose était complètement dénaturé.
Tout à fait.
On ne voyait plus de touristes et ça a un coût sur le PIB, ça a un coût sur les revenus de l'État. L'autre aspect avec la pollution de la décharge de Mbeubeuss, c'est cette décharge qui dégage des gaz, des fumées à longueur de journée, affecte toutes les populations qui habitent tout autour. Et c'est quelque chose qui va affecter la santé et les poches, les salaires, bien les revenus des populations. Après, on prend la mer. Tout le long du littoral, ça a été déboisé, les fulaos ont disparu. Sur le littoral est, côté Guédiawaye, Djamala et autres. Quand vous allez sur la partie ouest, il y a énormément de dépotoirs d'ordures vers la mer. À Tcharoy, il y a énormément de décharges de plastique et d'ordures ménagères. Et donc, ce sont toutes ces choses-là combinées qui poussent aujourd'hui à dire que le Sénégal est vraiment en retard. Parce qu'on ne peut pas être un pays qui ratifie des lois, qui écrit beaucoup de lois. Je vous donne l'exemple aussi de la loi plastique. Aujourd'hui, le Sénégal est en danger parce que les déchets plastiques sont un peu partout. L'entrée des capitales régionaux sont tapissées d'imperméables, de sachets plastiques. pourquoi cela? Pourquoi nous sommes un pays qui ratifie, qui adopte des lois, mais qui ne les pratique pas? C'est ça le problème du Sénégal. Et nous pensons qu'à partir de cette année 2024, les choses vont changer. Nous allons être vraiment dans la pratique et non dans les discours d'intention.
La dernière question également, tonton Vert, vous concernant, vous qui êtes aussi dans le reboisement, on a constaté, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aussi à l'avancée de la mer au niveau du Sénégal, le Sénégal aujourd'hui qui est l'entrée de l'Afrique de l'Ouest, et pourtant, on constate également que la politique de reboisement est aujourd'hui en retard, mis à part quelques structures ou comme vous également en tant que bénévole qui intervenez dans ce domaine. Est-ce qu'également à dire qu'aujourd'hui, c'est aussi un facteur ou un secteur où la politique sénégalaise doit plus s'orienter?
Effectivement, la politique sénégalaise, comme je le dis, la politique sénégalaise est bien en place. Ils ont les bons outils, ils ont les bons textes, ils ont tout. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'agence de la Grande Muraille Verte, qui fait un travail, je ne peux pas dire magnifique, mais d'après ce qu'on voit sur les images, on ne sent pas de grandes campagnes de reboisement. Les grandes campagnes de reboisement, supposons dans la zone urbaine, sont menées par des initiatives citoyennes comme Quartier Vert Challenge. Après, dans la nature ou bien dans certaines régions, il y a des organisations comme Nebedaï ou d'autres organisations. Maintenant, on attend, nous, la Grande Muraille Verte dans les grands programmes où nous, on mobilise les populations avec des dates phares, où on mobilise, on sensibilise et que les citoyens sénégalais eux-mêmes s'engagent à planter et un peu partout dans le Sénégal, les associations, les mouvements de jeunesse. Moi, nous, c'est ce qu'on attend, mais on n'attend pas de voir un ministre ou bien un directeur accompagné de 10 personnes, aller à Touba planter 5 arbres, 10 arbres, aller à Dagana, à Matam, à Podor planter 5 arbres, 100 arbres, 30 arbres. Non, non. Nous, ce qu'on attend, c'est que le projet de la Grande Muraille Verte avance, mais avance dans les communes, dans les communautés et partout au niveau de la frontière, parce que c'est un programme aujourd'hui qui n'est plus sénégalais. C'est un programme qui implique beaucoup de pays qui sont le Mali, Burkina, Niger, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, moi, je dis qu'il faut vraiment qu'on se retrousse les manches, qu'on travaille bien, qu'on puisse vraiment reboiser, reverdir ce Sénégal et stopper l'avancée du désert. On ne peut pas toujours rester à écrire des lois, à faire des articles et à recevoir des financements pour ne rien faire.
Et tout ça, bien évidemment, dans la durabilité de notre environnement qui est aujourd'hui essentiel à la survie de l'humanité. Abdou Touré, dit tonton Vert, merci. Je rappelle donc que vous êtes l'initiateur de Quartier Vert Challenge, par ailleurs aussi diplômé en fabrication mécanique et manager en hygiène, sécurité et environnement.
Merci M. Tunkara. Ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous. Vivement ce podcast puisse être dupliqué dans d'autres aspects encore.
Merci également à vous, Abdou Touré, également aussi à vous, chers amis qui nous suivez dans la durabilité de cette émission. Toujours un plaisir de vous servir. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro.